Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier spécialiste du renseignement et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 11e épisode, je voudrais parler de la vente des Rafales à la Serbie.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Vendredi 30 août, au terme d'une visite de deux jours à Belgrade, le président français a annoncé la vente de 12 avions Rafale à la Serbie pour un montant estimé à 2,7 milliards d'euros. Alors, bien qu'il s'agisse d'un nouveau succès à l'export pour l'avion de chasse, la question se pose d'armer la Serbie, soutien de Moscou, avec l'un des avions les plus modernes du monde. Qu'en pensez-vous ?
D'abord, un petit rappel, le Rafale n'est pas exactement un avion de chasse, c'est ce qu'on appelle un avion de combat multirôle. Il peut être chasseur, bombardier, il peut décoller d'un porte-avions, etc. Donc au départ, ça devait être un projet d'avion européen, puis la France s'en est désolidarisée et elle a décidé de faire cavalier seul. Donc d'un côté, ça a donné le Eurofighter et de l'autre, ça a donné le Rafale. Ça, c'était les années 80-90. Le premier prototype a volé en 91, qui est d'ailleurs l'année de la guerre du Golfe, et le premier avion, le premier Rafale, a été livré à l'armée de l'air en 2001. Ensuite, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que pendant presque 15 ans, la réputation du Rafale, c'était « c'est un très bon avion, les Français sont contents, mais il est invendable à l'export ». Et puis, en 2015, donc il n'y a pas si longtemps, c'était pendant la présidence Hollande, les premiers contrats ont été signés, et puis après ça, ça a été l'envolée. Cet avion, qui était considéré comme invendable par les médias français pendant des années, est en fait un avion qui se vend comme des petits pains, si je puis dire. À date, on frôle les 300 exemplaires vendus dans quasiment une dizaine de pays. Donc, je lis, l'Égypte en avait commandé 55, le Qatar 36, les Émirats Arabes Unis 80, l'Indonésie 42, etc. C'est un des plus grands succès commerciaux du complexe militaro-industriel français et il s'inscrit dans un contexte de dégradation structurelle du déficit commercial. Donc, si les présidents français ont l'air de se transformer en commis voyageurs de l'industrie d'armement, c'est aussi parce que c'est la seule industrie, avec celle du luxe, qui casse tous les compteurs à l'export.
Donc, ça rapporte de l'argent à la France, d'accord. Mais que se passe-t-il si Moscou obtient les plans du Rafale ?
La Serbie est très proche de la Russie, certes, et l'armée et le renseignement serbe sont sans aucun doute infiltrés par Moscou. En tout cas, c'est la réputation. Après, on n'est plus dans les années 60 où on pouvait voler les plans d'un appareil et puis après, on en faisait une copie. Ça serait évidemment beaucoup trop simple. Si la rétro-ingénierie, donc le fait de reconstituer un appareil d'une grande valeur à partir de la décomposition de ses différents éléments, si c'était si facile, Dassault et l'État seraient en effet bien naïfs de vendre le fleuron de la technologie militaire française à des pays qui ne sont pas nécessairement des amis ou des pays qui pourraient non seulement connaître toutes les caractéristiques du Rafale, mais pourraient aussi le reproduire et nous concurrencer à l'export. Donc, il y a les plans, il y a l'appareil, il y a la composition, mais il y a aussi les process qui, eux, ne viennent pas avec la vente de l'appareil. Et puis, n'oublions pas qu'un avion de combat au XXIe siècle, c'est pas pareil que dans les années 60 et 70. C'est avant tout de l'avionique, des capteurs, de l'optronique, etc. C'est-à-dire de l'informatique, du code qui lui est protégé. Sinon, il suffirait de capturer un missile ou d'avoir accès à un avion et tout pourrait être copié. De plus, ce que les Russes apprendront si les Serbes leur donnent accès à nos Rafales, enfin à leurs Rafales, une fois qu'ils les auront payés, les Russes l'ont probablement déjà appris en demandant aux Indiens, aux Égyptiens, aux Émiratis, qui sont tous des pays auxquels nous avons vendu des Rafales ces dernières années, mais qui entretiennent d'assez bonnes relations avec Moscou.
Dans ce cas, pourquoi ne pas vendre des Rafales à l'Ukraine ? Quelle est la logique de soutenir l'Ukraine si c'est pour vendre des matériels beaucoup plus sophistiqués à des alliés de Moscou ?
La raison est simple, l'argent. La Serbie paye, l'Ukraine pas.
Mais elle le paye en vie.
En effet, et personne ne l'oublie. Mais si on commence à délaisser les problématiques économiques, le déficit commercial s'aggrave, les moyens de financer notre défense s'amenuisent, la dette continue à augmenter, ce qui évidemment résultera dans une baisse des dépenses de défense et limitera la capacité de la France à aider les Ukrainiens.
Pour revenir sur la Serbie, ce qu'on entend aussi, c'est que renouer des liens commerciaux permettra de l'arrimer davantage à l'Europe alors qu'elle s'en éloignait. Vous en pensez quoi ?
Ce ne sont pas 12 rafales qui vont changer la politique pro-russe de la Serbie. En revanche, c'est un peu comme un cheval de Troie. Ces avions modernes sont d'une complexité inouïe, donc les vendre, c'est aussi vendre leur maintenance. C'est donc un engagement sur 30 ans. Ces avions sont supposés voler jusqu'en 2060. Ça donne un levier, ça crée un élément de négociation future. De plus, la Serbie n'est pas l'ennemi de l'Occident. Oui, les Serbes n'ont toujours pas avalé les bombardements de l'OTAN en 1999, et entre les Russes et les Américains, ils ont vite choisi. C'est vrai que les thèses pro-russes y sont populaires, comme en Hongrie d'ailleurs, qui est pourtant un pays de l'OTAN. Mais faut pas oublier que la Serbie a œuvré secrètement pour à peu près 800 millions d'euros d'armement à l'Ukraine, et cela tout en restant le grand ami de Moscou.
Oui, c'est paradoxal. Pourquoi Moscou tolère-t-il ça ?
En Occident, notre vision des jeux d'alliance s'est façonnée souvent par la morale, et elle se heurte à chaque fois à la complexité des réalités géopolitiques. La Serbie est le grand ami de la Russie, mais si elle a refusé de participer aux sanctions, elle a toutefois condamné l'agression russe. Elle a, comme je le disais, livré des armements aux Ukrainiens. De l'autre côté, l'Ukraine ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. En effet, comment la Serbie pourrait-elle réclamer le rattachement du Kosovo si elle ne reconnaît pas à l'Ukraine le droit de récupérer la Crimée ? Quant à Moscou, ils acceptent le jeu d'équilibriste des Serbes entre Russie et Occident, ce qui leur permet de préserver une zone d'influence par procuration dans les Balkans.
Fascinant. L'un des discours que l'on entend aussi, c'est que la vente des Rafales à la Serbie s'inscrit dans une vision géopolitique de la France qui viserait à renouer certaines alliances et empiéter sur le précaré de Moscou. Vous en pensez quoi ?
Il y a la réalité, puis il y a le discours. On reproche à Emmanuel Macron le manque de cohérence de sa politique étrangère. C'est vrai que les débuts n'ont indubitablement pas été brillants. Si on en dresse la liste, la France-Afrique a pris un sacré coup. On est passé de la France qui libère le Mali en 2013 au Mali ennemi juré de la France sous l'époque Macron. Le Mali, la Centrafrique, le Niger, le Burkina Faso, tous ces pays sont passés sous la coupelle de Moscou. Et ce n'est pas fini. Donc 60 ans de travail de diplomatie française se sont écroulés en quelques années, et en plus à un prix dérisoire pour les Russes. Ensuite, les relations avec l'Algérie, qui devaient s'améliorer, sont toujours aussi mauvaises. Celles avec le Maroc sont tendues. Les relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan se sont carrément détériorées pendant la présidence Macron. Et si on s'en souvient, à l'occasion de l'explosion majeure dans le port de Beyrouth qui avait détruit plusieurs quartiers il y a quelques années, quand il avait essayé de faire un coup médiatique en étant le premier chef d'État à se rendre au Liban, eh ben, au final, il avait fait plein de promesses et tout ça, ça s'est retourné contre lui. Donc, en première lecture, le bilan en politique étrangère est plutôt pas trop bon. Ensuite, il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, il y a eu la crise des sous-marins. On s'en souvient, c'était en 2021 avec le fameux AUKUS. Là, Macron a compris une chose, c'est qu'on ne peut pas toujours faire entièrement confiance aux Britanniques et aux Américains. Les Australiens, ils savaient déjà. Numéro 2, il y a évidemment eu la guerre en Ukraine. Ça a été sa deuxième humiliation. Il a d'abord, la DRM n'a absolument pas vu venir le truc. Même chose pour la DGSE. La politique de, on va dire, d'engagement vis-à-vis de Poutine avant le début de la guerre, tout ça s'était fait à partir de la cellule diplomatique de l'Élysée. Quai d'Orsay a été isolé, etc. Donc, pour résumer, la Russie a volé la moitié de la zone d'influence française en Afrique francophone en moins de 5 ans. Elle mène une guerre informationnelle farouche contre la France. L'Azerbaïdjan, qui est redevenu l'allié de Moscou, cherche aussi à déstabiliser la France, mais notamment dans ses territoires d'outre-mer. Et la Turquie, qui est alliée de Bakou, et qui joue un jeu, elle aussi, entre Moscou et l'OTAN, continue à manifester une certaine hostilité contre la France. Donc il y a évidemment un moment où ça suffit. Donc on a bien sûr la diplomatie du Rafale, mais si Macron est moins engagé sur le terrain africain que ses prédécesseurs, en Europe et dans le Caucase, depuis quelques années, il se passe clairement des choses.
Quoi ?
Il y a bien sûr le rapprochement avec l'Arménie, qui est un allié historique de la France depuis le XIIe siècle. Donc l'Arménie a été abandonnée par la Russie lors du conflit au Karabakh. Et ce qui s'est passé, c'est que la France a très très vite occupé le terrain. Donc en fait, chassant presque la Russie de sa zone d'influence traditionnelle depuis le démarrage de l'Union soviétique notamment. Il y a échange d'officiers, échange de renseignements et évidemment beaucoup d'achats d'armes de la part des Arméniens, canons César, défense antiaérienne, etc. Ensuite, il y a tous les efforts qui sont faits en vue de contrer l'influence de Moscou en Géorgie. N'oublions pas au passage que la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, c'est une franco-géorgienne, elle a la double nationalité, elle est née à Paris, c'est une ancienne diplomate française. On a la même chose en Moldavie, ce sont d'ailleurs les autorités françaises qui ont sanctionné les premières les membres du 5e service du FSB qui étaient chargés de la déstabilisation de la Moldavie, par exemple Dimitri Miliutin. À cela, on peut ajouter les visites d'Emmanuel Macron en Mongolie, ses voyages au Kazakhstan, en Ouzbékistan, où d'ailleurs on évoque une vente de rafales en Ouzbékistan. Il y a le resserrement des liens avec la Grèce et Chypre face à la Turquie. Et puis, il y a évidemment le coup commercial de la Serbie, qui, ne l'oublions pas, est également un allié historique de la France, en tout cas, au minimum, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le but et la vision, c'est donc bien de donner des coups de canif dans la zone d'influence russe, de leur rappeler aussi que s'ils peuvent atteindre des intérêts français en Afrique et ailleurs, les Français peuvent s'en prendre aux intérêts russes. L'idée est donc non seulement d'arrimer certains pays comme la Moldavie ou la Géorgie à l'Europe, mais aussi de redéfinir une zone d'influence française, finalement par certains côtés presque plus proche du 19e siècle, une zone d'influence qui est jugée récemment trop africaine et en la rendant plus européenne, voire caucasienne, voire centrale-asiatique.
Et vous voyez une vraie cohérence ?
Disons que je vois surtout une volonté de présenter une série d'actions avant tout opportunistes comme une politique cohérente. A l'inverse, les cyniques pourraient dire que la politique étrangère de la France est dictée par la vente des rafales et les opportunités commerciales, qui se trouvent souvent dans des pays disposant d'une flotte d'avions soviétiques vieillissant. Donc voilà, les Chinois pratiquent la diplomatie du panda, les présidents Hollande et Macron, celle du rafale.